Hello et bienvenue sur le podcast Les Matchs de ma vie. À travers 5 matchs de foot, notre invité parle de son amour pour ce sport et nous ouvre ainsi sur quelques chapitres de sa vie. 5 matchs à raconter, beaucoup de bonheur à partager avec vous, où que vous soyez, où que vous nous écoutiez. Merci déjà de nous avoir choisis. C'est parti pour ce nouveau numéro 2, Les Matchs de ma vie avec moi, Darren Tulette, et notre invité aujourd'hui qui est...
Simon Cooper.
Simon Cooper, ravi de t'avoir avec nous, Simon, journaliste et éditorialiste pour le journal britannique The Financial Times. Tu es un écrivain très connu et célébré dans le monde anglo-saxon pour des livres tels Football Against the Enemy, Soccernomics ou plus récemment Barça, dans lequel tu as brillamment retracé l'histoire du club catalan et pour lequel tu as gagné en 2022 le prix du Football Book de l'année du Sunday Times.
Merci Darren, c'est très sympa.
N'est-ce pas? Cher auditeur, notre ami Simon Cooper, qui a aussi écrit avec succès sur la vie politique au Royaume-Uni, a un nouveau livre qui va sortir dans les jours à venir, Impossible City, Paris in the 21st Century. C'est un livre qui raconte en quelque sorte les aventures et mésaventures d'un Anglais qui habite Paris depuis 20 ans. J'ai la chance de l'avoir déjà lu et je vous le recommande chaudement. C'est un savant mélange plein d'esprit entre le personnel et la politique. Vous verrez peut-être la France d'un œil différent après l'avoir lu. Et ça vous permettrait aussi de pratiquer votre anglais.
Et au moins qu'une traduction française. Donc s'il y a des éditeurs français qui écoutent, appelez-moi.
Ils sont très nombreux, les éditeurs français qui nous écoutent. Donc ça, c'est formidable comme nouvelle. Ils vont nous appeler tout de suite après le podcast. Simon, bienvenue dans ce podcast. Je dois expliquer à notre audience d'abord que j'ai la chance de te connaître depuis un petit moment maintenant et puis que nous n'avons pas l'habitude de se parler en français vu que nous sommes tous les deux plus ou moins British, n'est-ce pas?
Oui, et il faut aussi dire qu'on joue souvent au tennis ensemble.
Yes, effectivement. Je ne sais pas du tout comment ça va se passer, même si toi, tu as un passeport français désormais.
Oui, moi, je suis britannique et français. Et yes. Toi, tu es resté que britannique.
Et moi, je vais deux fois m'y mettre.
Très patriotique
un
pour toi.
Un de ces jours. Oui, chauvin comme je suis. J'ai refusé. Non, pas du tout. Je suis trop feignant pour le faire. Mais je vais le faire, allez, sans plus attendre.
Je suis sûr que M. Macron, il écoute aussi ton podcast. Donc, peut-être qu'il...
Monsieur Macron, président, si vous voulez bien, juste entre nous, un petit faveur. Allez, sans plus attendre, c'est parti pour les matchs de la vie de Simon Cooper. Match numéro 1, Simon, quel est ton choix et pour quelle raison?
C'était novembre 81. Mm-hmm. Et il y aura beaucoup de Français qui se souviennent aussi bien de ce match. La France contre les Pays-Bas. Et c'est le premier match quand j'ai pleuré devant la télé.
Tu as pleuré devant la télé.
Oui, parce que moi, j'ai grandi aux Pays-Bas. Je suis grand fan du foot hollandais. C'est un peu mon foot. Ce qui est logique parce que c'est le meilleur foot. C'est le foot le plus civilisé, le foot hollandais.
Ok, tout de suite, tu es dans la provocation.
Et, non, mais c'est vrai. Ça, c'est une vérité simple. Et puis, on était dans deux coupes finales de la Coupe du Monde d'affilée dans les années 70. Mm. Et puis, il y a la qualification pour 82, et on joue contre les Français.
Au Parc des Princes.
Au Parc des Princes, avec malheureusement Platini, qui met un coup franc. Et notre gardien, Hans van Breukelen, et le défenseur, Ruud Krol, ils sont tous les deux sur la ligne, et ils regardent l'un l'autre, et la balle passe entre les deux. Et on a perdu, on n'est pas allé à la Coupe du Monde, et pour moi... À l'âge de 12 ans, c'était une tragédie. Je pense que tout le monde qui écoute ce podcast a eu une expérience similaire, peut-être pas avec l'équipe des Pays-Bas.
Oui, effectivement, peut-être pas avec les Pays-Bas. Et donc, tu as 12 ans, tu disais, et tu regardes ce match où alors et avec qui?
J'ai grandi dans une petite ville hollandaise qui s'appelle Leiden. C'est une ville sans club professionnel. Donc, quand j'ai grandi, je n'ai pas vu trop de matchs au stade, et j'ai joué férocement pour un club amateur contre tout le monde. Tous les garçons, en tout cas, que je connaissais, ils ont tous joué au foot. C'était normal aux Pays-Bas dans cette époque. On a dit que c'était le pays avec le plus de joueurs de foot au monde, proportionnel à la population. Donc j'ai grandi en jouant tout le temps au club, dans la rue, sur les champs. Donc, j'étais entouré par le foot hollandais et surtout par Johan Cruyff. Je pense qu'en français, on dit Cruyff.
Johan Cruyff.
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 Oui, et les Anglais disent Cruyff. Ouais. Mais il faut dire Johan Cruyff.
Ok, moi je vais continuer à dire Cruyff pour les auditeurs, fais-toi plaisir. Et donc, c'était ton héros, en plus, Johan Cruyff, j'imagine.
Oui, dans mon livre sur le Barça, j'ai décrit que je l'ai rencontré une fois, en 2000. Et c'était très agréable, mais après, on a eu un conflit. Tout le monde qui a rencontré Cruyff a eu un conflit après. C'était pas un homme très facile. Donc, il est mon héros, mais je sais maintenant qu'il est aussi très, très humain. Dans le sens négatif.
Dans le sens négatif, ok. Donc ce match-là, tu es à la maison pour regarder ça?
Oui, j'étais à la maison. Je pense que j'ai regardé avec mon frère, qui à l'époque était aussi obsédé par le foot comme moi. Oui, donc on est dans notre maison familiale, dans une petite ville. Mes parents étaient des immigrés, ils ont grandi en Afrique du Sud, et on a voyagé un peu partout dans le monde, et un peu par hasard, mon père a eu un boulot aux Pays-Bas, donc par hasard, j'ai grandi là en tant qu'immigré, je suis jamais devenu hollandais, sauf dans le sens footballistique.
Tu avais un passeport britannique?
Je suis né avec un passeport britannique comme toi, mais je suis né en Ouganda, contrairement à toi, parce que, comme j'ai dit, on a voyagé un peu partout. Et puis, il y a 2 ans, j'ai finalement obtenu ma nationalité française après un entretien dans un ministère où on m'a posé la question, est-ce que vous êtes un espion?
Un espion? Un espion?
Ouais, ouais. Ah, okay. Et j'ai dit, un espion pour qui? Ils n'étaient pas sûrs. Ils ont vraiment soupçonné ce mec-là, il est espion. Mais ils ne savaient pas exactement pour qui. Et à la fin, ils m'ont donné la nationalité. Donc,
quand même.
Non,
mais c'est le genre de question, évidemment. Si on est espion, on ne peut pas le dire.
Oui.
C'est comme lorsqu'on va dans un avion pour aller aux États-Unis et il y a un papier. Est-ce que vous êtes terroriste?
Ouais, bien sûr. Vous n'avez pas marqué. Je ne dis toujours pas.
Oh, j'ai marqué oui, mince. Je me suis fait avoir. Allez, emmenez-moi en prison. Non, mais c'est un peu bizarre.
Je vais encore nier le fait
que je suis... être espion, mais on ne le saura jamais.
Oui, mais toi aussi peut-être. Je sais que tu es toujours chez l'ambassadrice britannique. Donc,
oui, c'est un peu suspect, effectivement. Ouais. On aurait tous aimé être espion. On est né avec James Bond à la télé, forcément, on rêve de ça. Mais on revient sur ton enfance. Donc, effectivement, né à Ouganda, en Ouganda, tu es garçon. Jusqu'à quel âge tu habites aux Pays-Bas?
Jusqu'à l'âge de 16 ans. Et après, je suis revenu à Londres, où j'habitais avant un peu. Donc oui, j'ai découvert le foot anglais un peu plus tard, et avec un peu de choc. Parce que c'était pas du tout à cette époque-là.
Ah oui, c'était pas comme le football néerlandais. On va y arriver, mais on termine avec ton enfance un petit peu. Donc tu joues au foot aux Pays-Bas. Tu arrives aux Pays-Bas et tu apprends la langue comme ça, c'était simple ou...
Mes parents m'ont mis dans une école hollandaise, donc dès l'arrivée. Et au début, je me suis endormi dans la classe parce que je ne comprenais rien.
Oui.
Mais j'avais 7 ans et à cet âge-là, après 3 mois... j'ai parlé la langue couramment.
Wow.
Mieux que mon hollandais est toujours mieux que mon français, malheureusement.
Ah oui, à ce point-là. On aurait dû le faire en hollandais, mais malheureusement,
notre public n'a peut-être rien
compris. Ok, donc ce match-là, pour revenir sur la pelouse au Parc des Princes, parce que toi, tu pleurais après le match, mais les Français, évidemment, faisaient la fête. 2-0, cette victoire.
Oui,
avec
mais je m'en foutais complètement des Français.
Oui, tu t'en foutais royalement. Platini avait marqué, Didier Six aussi, avec le deuxième but. Et il y avait Rocheteau dans cette belle équipe. Et les Bleus de Michel Hidalgo partent pour la Coupe du Monde en 82. Et tout le monde se souvient du match contre les Allemands en demi-finale. Mais toi, donc, tu es devant ton Johnny Rep et ton Neskens et Kroll et Muren et ces joueurs-là. Et pas de Coupe du Monde en 82. Alors, tu as regardé quand même la Coupe du Monde en 82?
Oui, bien sûr. Je me souviens bien le match de Sevilla contre tout le monde. C'était la première Coupe du Monde dont je me souviens beaucoup de matchs. Et il y avait le Brésil contre l'Italie et puis le match de Sevilla. Je pense sous une semaine. Donc 2 matchs légendaires et puis la finale, l'Italie, l'Allemagne. Donc quand tu as 12 ans, c'est un peu l'âge parfait pour tomber amoureux de la Coupe du Monde. Et après, dès 90, j'ai assisté aux dernières 9 Coupes du Monde. Donc je suis près du record. Donc oui, c'était un peu le début parce qu'en 78, J'ai regardé la finale à Pays-Bas, Argentine, chez moi, mais j'avais 8 ans. Et à l'âge de 8 ans, c'est très normal que ton pays est dans la finale d'une Coupe du Monde. Rien d'extraordinaire.
Oui, c'est rien avec quoi comparer ça. Oui. Alors que quand tu es en Angleterre, tu sais déjà que ce n'est pas normal d'être loin, d'aller très loin dans un tournoi. Ton enfance, alors, tu as bougé, tu as changé de pays. Comment tu décris ton enfance quand tu y penses?
Une enfance, bon, pendant 10 ans, très ancrée aux Pays-Bas, dans une petite ville, très hollandaise, donc à très peu d'étrangers, un peu ennuyeuse, une ville ennuyeuse. Le dimanche, j'ai regardé par la fenêtre, à la rue devant notre maison, et il passait des heures sans que même une voiture passait. C'était un peu le « en dimanche aux Pays-Bas » en années 80. Donc, j'ai vraiment eu le désir de connaître la grande ville, les grandes villes, et donc, et c'est ça que j'ai fait après à Londres et à Paris. Mais c'était une enfance très agréable avec beaucoup de sport. J'ai joué aussi au cricket, qu'on joue aussi aux Pays-Bas, un peu de tennis. Et donc oui, obsédé par le sport. Et mes parents aussi, parce que la culture, disons, la culture blanche sud-africaine, était très ciblé vers le sport. Donc, pour ma mère, le tennis, pour mon père, le cricket. Mais c'était moi et mon frère qui ont découvert un peu le foot pour la famille.
Cette envie de grande ville, tu vas être bien servi parce que justement, notre match numéro 2, nous sommes en Angleterre désormais pour ce match du 20 septembre 1986. Ça se passe au stade mythique de Highbury, mais la rencontre en question n'apparaît sur aucune liste de matchs mémorables.
Non.
Et pour une bonne raison, Arsenal 0, Oxford United 0. Mais que fait ce match sur ta liste, Simon?
J'étais arrivé un peu avant à Londres à l'âge de 16 ans. Et on avait un voisin qui habite toujours dans la rue de mon père, qui était fan d'Arsenal et qui m'a invité d'aller avec lui et son fils pour aller au match. Et pour moi, c'était un grand événement parce que j'avais vu assez peu de matchs pendant mon enfance dans un stade, dans un vrai stade. Et Arsenal n'était pas loin de où on habitait, Spurs non plus. Donc, c'était mon premier match anglais, je pense. Et je me souviens des rues moches, du foot moche, des joueurs moches, en stade demi-vide, parce que Highbury avait une capacité de 38 000 spectateurs, donc beaucoup moins que l'Emirates maintenant.
Ouais.
Et c'était à moitié vide, 20 000 spectateurs, j'ai vu pour ce match.
Ouais.
Foot vraiment très primitif. Arsenal, à cette époque-là, si je me souviens bien, et toi aussi, tu vas te souvenir des joueurs comme Perry Groves,
oui,
et Martin Hayes. Un peu joueurs du niveau, Ligue 2 nationale.
Oui.
Mais je pense que 2 ans après, ils ont gagné le championnat anglais. C'est extraordinaire.
Oui, c'est extraordinaire. Avec l'entraîneur George Graham. Et c'est à cette époque-là que les supporters adverses commençaient à scander et chanter le « boring, boring, boring Arsenal ». Ouais, ennuyeux, ennuyeux, ouais. Cette équipe d'Arsenal. Par contre, je viens d'avoir un coup de téléphone là, en direct pendant le podcast. C'est Tony Adams qui me dit « comment ça, on était moche ?» Tony Adams, qui avait 20 ans, qui jouait dans cette équipe-là. Donc, tu as mis ce match sur ta liste parce que tu étais tellement déçu du football anglais, c'est ça, en arrivant à Londres?
Oui, je ne suis jamais tombé amoureux du foot anglais. Et on peut dire maintenant que le foot anglais est devenu le foot international. Et c'est même extraordinaire que les meilleures équipes de l'Europe maintenant, et peut-être du monde, au niveau de qualité des joueurs, sont la France et l'Angleterre. Il y a plein d'Anglais. J'ai vu le match Dortmund-PSV cette semaine avec Jadon Sancho, qui ne joue même pas dans l'équipe nationale. Mais quel joueur! Et c'est extraordinaire parce que pendant toute mon enfance, l'Angleterre n'avait pas des jolis joueurs, des grands joueurs. Maintenant, on a rattrapé. Mais oui, effectivement, la culture du foot anglais attire et a toujours attiré tout le monde. Et pour moi, un peu moins. Ouais.
Oui, tu es un peu plus sceptique par rapport à tout ça, toi qui as grandi devant les Pays-Bas.
Oui, et aux Pays-Bas, le foot, Crève a dit, le foot c'est un jeu qu'on joue avec la tête. Dans le sens cérébral.
Oui, les Anglais l'ont pris trop littéralement.
Oui, c'est bien dit.
Oxford United, je suis allé regarder pour ce match-là en 86. Oxford, oui, était en première division. Ce n'était pas encore la première ligue. Et Oxford, la saison précédente, avait gagné la Coupe de la Ligue qui s'appelait The Milk Cup à ce moment-là, la Coupe du lait. Formidable. Et il y avait John Aldridge et Ray Houghton dans l'équipe de Oxford qui avaient joué à Liverpool plus tard.
Tu te souviens, le grand escroc britannique Robert Maxwell, était propriétaire des journaux. Oui. Et il a acheté, Oxford a acheté des grands joueurs et après il est mort dans l'océan. Accident ou suicide et il a volé des millions de livres partout pour payer son équipe.
Oui, effectivement, dans les fonds de retraite et tout. Tu vis donc à ce moment-là en Angleterre, tu as presque 17 ans le jour du match. Quelle est ta vie et quelles sont tes envies à ce moment-là?
Bon, j'étais nouveau dans un pays que je connaissais mal et au début, je me demandais est-ce que je deviens sourde? Parce que je ne comprenais pas les Londoniens. Je parlais bien anglais, on a toujours parlé anglais chez nous, mais l'accent londonien était incompréhensible pour moi. Je pense qu'il y a beaucoup de Français qui ont eu cette expérience. Mmh. Je n'avais pas d'amis. Quand tu déménages à l'âge de 16 ans dans une grande ville pour la première fois, et tu perds tes vieux amis, même si je connais toujours les gens avec lesquels j'ai grandi aux Pays-Bas à cette époque-là. Mais oui, j'étais totalement désorienté et triste. Et oui, c'était. Il y a une chanson de Smiths, 16 Clumsy and Shy, I Came to London to Die. Oui. 15 Clumsy and Shy. Et c'était un peu moi à cette époque.
Oui, ouais. À 15-16 ans, maladroit et timide, comme chantait Morrissey à l'époque. Et tes envies à ce moment-là, tes envies de. Tu savais ce que tu voulais faire de ta vie à ce moment-là?
J'étais déjà journaliste. Ça, c'est un peu bizarre parce que. À l'âge de 16 ans, encouragé par mon père, j'ai commencé à envoyer des papiers à World Soccer, un magazine, sur le foot hollandais. Parce que je lisais la presse hollandaise et puis j'ai résumé un peu ce qu'on a dit et j'ai présenté des nouveaux joueurs comme Ruud Gullit ou Ronald Koeman, des jeunes de cette époque-là, pas connus en dehors des Pays-Bas, et j'ai écrit des petits papiers que j'ai toujours. Donc, World Soccer m'a même donné une chronique. Et donc, j'avais une chronique mensuelle dans un magazine. Et à cette époque-là, les gens lisaient toujours des magazines.
Oui.
Donc, j'étais bien payé. Je pense que j'ai gagné 30 ou 40 livres par mois pour ces chroniques-là. Donc, j'étais...
À 16-17 ans.
À 16-17 ans, oui. Ah, donc, j'étais en ado assez riche. Oui.
Tu pouvais payer ta place pour aller voir cette triste équipe d'Arsenal
à l'époque. Parce que Arsenal et Spurs, ça coûtait environ 5 livres anglais. Donc, j'allais seul au match dans le bus aux deux équipes et j'ai regardé plein de foot. J'ai vu Chris Waddle et Glenn Hoddle à Spurs. C'était vraiment un plaisir quand même.
Ah, ça, c'était autre chose, effectivement.
Autre chose, ouais.
C'était pas Perry Groves, effectivement. Même si Charlie Nicholas jouait à Arsenal
oui,
à
brièvement.
Peu près cette époque. De temps en temps, il était pas mal l'Écossais, mais bon, il était un peu fêtard. Oui, on a dû. On a dû parfois être dans le stade en même temps parce que j'allais voir Arsenal à cette époque-là aussi. Quand on faisait la queue le jour de match sans réserver quoi que ce soit, pour être debout derrière le but et les tribunes qui sentaient la pisse. Ah, que c'était bon.
Ouais.
Ce qui nous amène à match numéro 3 maintenant. 2 ans plus tard, Simon. Tiens, on oublie les Anglais. On est le 25 juin 1988 au stade olympique de Munich. Où va se disputer la finale du champion d'Europe entre tes oranges préférées, donc les Pays-Bas, et l'USSR. Tu es où et pourquoi tu choisis ce match?
J'étais dans le stade parce que j'avais juste terminé le bac anglais, disons, A-levels.
Yes.
Et j'avais contacté le chef de World Soccer.
Ah oui, maintenant que tu es éditorialiste.
J'étais éditorialiste, je pense qu'il ne savait pas que j'avais 16 ou 18 ans. Parce qu'on ne s'est jamais vu à cette époque-là.
Ah oui.
Et je l'ai contacté et je lui ai demandé est-ce que ce serait possible d'obtenir un billet pour moi pour le match, pour la finale, les Pays-Bas contre l'Union soviétique.
Oui.
Et il m'a dit oui, sans problème, parce qu'effectivement, le stade n'était pas plein. Incroyable. Ça, c'était un peu le foot dans les années 80.
Oui.
Et mes parents ont payé l'avion, c'était un cadeau de bac. Donc, j'allais à Munich. Et tout de suite, j'ai oublié de tamponner mon billet de bus. Donc, j'ai rattrapé en amende de 40 Deutschmark. Et ça, c'était tout l'argent que j'avais.
Oh non.
Donc, j'ai dormi dans la gare.
Ah oui?
Oui. Un garçon de 18 ans qui dorme dans la gare de Munich. Mais j'ai vu le match. 2-0 pour les Hollandais. C'est toujours le seul prix qu'on a jamais gagné dans le foot. Mm-hmm. But extraordinaire de Marco van Basten. Moi, j'étais derrière le but.
Ah oui.
Donc, ça ne s'oublie pas. Oublie pas.
Oui, ça, c'est effectivement, je pense que la plupart de ceux qui écoutent, ils peuvent imaginer, ils peuvent encore voir ce but. Mais si vous ne l'avez pas en tête, allez chercher les images de cette finale-là. Parce que oui, Ruud Gullit marque de la tête pour le premier but. Et puis van Basten marque peut-être probablement le plus beau but dans l'histoire de l'Euro. En tout cas, certainement lors d'une finale, parce que absolument extraordinaire. Un penalty arrêté par Van Breukelen devant Igor Belanov.
Igor Belanov qui est maintenant dans l'armée ukrainienne.
Incroyable.
À l'âge de 62 ans, je pense.
Ouais. Wow. Premier titre pour les Néerlandais. Seul titre pour les Néerlandais. Van Basten, qui avait marqué un triplé aussi contre l'Angleterre plus tôt dans cette compétition. Donc, il n'y avait pas de doute pour toi. Tu n'étais pas pour les Anglais, tu étais toujours Néerlandais.
Oui, j'ai toujours été pour les Hollandais.
C'est l'ambassade britannique qui m'a demandé de poser cette question par rapport à votre passeport.
Oui, mais je suis non plus pour la France. Mais par contre, malheureusement, mes enfants, ils sont supporters de l'équipe de France.
Ah oui.
Oui, donc maintenant c'est insupportable.
Oui, né ici, c'est insupportable.
Oui, mais pourquoi être pour l'équipe de France? Mais mes deux garçons jumeaux, ils ont gagné la Coupe du Monde à l'âge de 9 ans. Oui. En 2018.
Ah oui.
Et j'ai dit, mais c'est le sommet.
Déjà
après,
au sommet.
Après, il y aura des décennies de déception. Donc, profitez bien, j'ai dit. Et en plus, oui, c'est peut-être la dernière fois.
Alors que nous, enfin moi, l'anglais, j'attends toujours avoir un titre à fêter, à célébrer, effectivement, c'est terrible. Donc, Van Basten, c'est un peu ton joueur préféré à cette époque ou il y avait quelqu'un d'autre dans l'équipe?
Bon, c'était une équipe extraordinaire. Et il y avait quatre joueurs exceptionnels. Van Basten, Gullit, Frank Rijkaard, qui est un peu oublié, mais qui était
sacré joueur.
Qui pouvait jouer chaque position, un joueur très tranquille, mais qui maîtrisait vraiment tous les aspects de foot. Il a joué derrière, dans un charnier avec Ronald Koeman, qui avait la frappe la plus belle que j'ai jamais vue dans le foot.
Ouais, très puissante.
Oui, et vraiment sans effort, il pouvait tout tirer de 40 mètres.
Ouais. Mm. Ok, cette équipe de Pays-Bas qui t'a fait rêver, tu étais au stade quand même pour voir ça, c'est quand même fabuleux, effectivement. Même si tu as dû dormir à la gare.
Ouais.
Ok, mais après, tu as pu fêter ça quand même? Tu as pu trouver quelqu'un avec qui aller boire une petite bière après?
Non, j'ai rencontré un STF italien-allemand. Qui m'a donné des conseils comment dormir dans une gare. Et il était très sympa. Donc, plutôt lui que les Hollandais, que je me souviens.
Ok. Tu as fêté la victoire avec un STF italien à Munich.
Bon, il n'a pas vraiment fêté. Lui, il n'était pas un grand fan de l'équipe de Pays-Bas, mais on a partagé notre expérience de gare. Ouais.
C'est une façon comme une autre à fêter un premier titre pour les Néerlandais en 88, donc à Munich. Vous écoutez, les amis, les matchs de ma vie, le podcast de beIN Sport, où notre invité raconte les 5 matchs de foot qui ont le plus marqué sa vie. On arrive au match numéro 4 de Simon Cooper, notre ami franco-britannique désormais. Journaliste, écrivain mondialement reconnu, mari, père de famille, joueur de tennis connu sous les terrains municipaux du 11e arrondissement de Paris pour un jeu au filet peu conventionnel mais particulièrement efficace.
Pas très efficace non plus.
Et bientôt podcasteur, toi aussi. Alors raconte-nous, Simon, parce que ça va sortir bientôt et ça s'appelle Heroes and Humans of Football, si je ne me trompe pas. C'est quoi l'idée?
L'idée, c'est qu'on pense que ces gens-là sont des héros, des légendes, ce qui est vrai, mais ils sont aussi des êtres humains complexes, un peu comme nous. Et donc, dans chaque épisode, on présente un personnage de foot, souvent quelqu'un que j'ai rencontré, que j'ai interviewé. Premier épisode, le 21 mars, est sur Kylian Mbappé. J'ai interviewé en 2021, et puis Abramovich, Guardiola, plein plein de gens. Jürgen Klopp, bientôt on va faire un épisode sur lui. Ce ne sont pas des interviews normalement, mais moi et mon co-présentatrice Maryne Kahn, qui est journaliste anglaise obsédée par le foot, on parle des gens, on fait vraiment des grandes recherches, donc on présente les personnages les plus importants. Arsène Wenger aussi, on a même fait deux épisodes sur Wenger parce que c'était impossible de capter sa vie de foot dans un épisode.
D'accord, donc c'est tracer la carrière, mais aussi c'est et peut-être surtout l'homme derrière, la personne.
Ou la femme.
Ouais. Ou la femme derrière.
Il y a quelques femmes, oui. La complexité du personnage, oui, vraiment... comprendre qui est Arsène Wenger, qui est Megan Rapinoe.
Mm-hmm. Heroes and Humans.
Heroes and Humans of Football. Oui.
Ça sort bientôt et vous allez prendre des nouvelles. Là où vous écoutez des bons podcasts comme Les Matchs de ma vie, par exemple. Et on revient sur ta liste, Simon, pour ce quatrième match. On est en France, c'est la Coupe du Monde de 1998. Et tu as sélectionné pour nous le huitième de finale entre l'Angleterre et l'Argentine à Lens, au stade magnifique de Bollaert. Pourquoi ce choix-là?
Bon, d'abord, c'était un match dramatique. Tu te souviens bien?
Ah oui, malheureusement, oui.
Il y avait le but de Michael Owen, les deux sprints de Michael Owen. Ouais. Ce 50 mètres, il avait, je pense, 18-19 ans. Donc, il était inconnu en dehors de l'Angleterre. Et puis, il s'est présenté. C'est un peu comme Mbappé contre l'Argentine 20 ans après. Mm-hmm. Mbappé aussi a fait ce sprint sur 50 mètres, penalty, exactement la même chose pour Owen, mm-hmm. après quelques minutes de jeu. Et on a découvert, disons, dans une demi-heure, une nouvelle légende de la Coupe du Monde. Puis il y avait l'expulsion de David Beckham, provoquée par Diego Simeone.
Ah oui.
Et à la fin, comme toujours, l'Angleterre a perdu sur penalty.
Oui, à cette époque, effectivement, on perdait toujours au tir au but. Batistuta penalty, Shearer penalty, Owen pour le 2-1 avec ce but extraordinaire. Ça, c'est seulement après un quart d'heure. C'était un match de fou, ouais, quand même. Ouais. Ça a commencé à 1000 à l'heure.
Oui, moi, j'étais même pas fan de l'équipe Angleterre, mais même pour moi, c'était un match dangereux au niveau cardiaque, oui.
Même toi, celui qui n'est pas pour l'Angleterre, a vibré. C'était une séance de tir au but dont je me souviens, j'ai pris quelques notes avant de venir te voir parce que, effectivement, c'était un peu notre cauchemar pour les Anglais, les séances de tir au but. Aujourd'hui, je pense que nous avons un sélectionneur qui travaille là-dessus, qui réfléchit, ouais, qui prépare, mais à l'époque... Pas du tout. Et Glenn Hoddle était le sélectionneur, le joueur que tu as apprécié quand il était à Tottenham. Formidable quand il jouait à Monaco aussi. Mais en tant que sélectionneur, c'était il y a longtemps maintenant. Et effectivement, la préparation pour ce genre de truc, presque inexistant. David Batty, par exemple, a tiré un penalty. Il nous a dit après qu'il n'avait jamais tiré un penalty de sa vie.
Oui, et on ne savait pas comment tirer les penalties. Par exemple, il ne faut pas aller vite. Il faut prendre son temps, regarder le but. Tu peux regarder aussi le gardien. Mais prends ton temps, souffle, etc. Et on sait tout ça maintenant. Mais à l'époque, c'était vraiment d'un niveau très amateuriste et le coaching aussi amateuriste. Mais j'ai entendu dire que l'équipe de France, il y a quelques années, on préparait toujours pas les séances de tir au but.
Bah, on a vu et on en parle en France ces derniers temps par rapport à Didier Deschamps et sa préparation. Parce que souvent, Didier Deschamps, que j'admire énormément, souvent il dit quand même que c'est une loterie, la séance de tir au but.
Oui, mais c'est pas ça. Oui,
ouais, alors que nous, on n'est pas d'accord avec ça, effectivement. Tu es où pour cette Coupe du Monde, alors, 98? Parce que maintenant, tu es journaliste reconnu, ouais. Tu travaillais pour...
J'ai travaillé déjà pour le Financial Times, où je travaille toujours. Et ils m'ont envoyé à la Coupe du Monde en France. J'habitais en Angleterre. Mm-hmm. Et cet été-là, ce mois-ci, la France m'a séduit. J'ai découvert un peu la vie française, le déjeuner, les terrasses, les villes jolies et très vivables que vous avez un peu partout. J'étais basé à Lyon les premières deux semaines. Et après Marseille, Paris, Toulouse. Donc j'ai vraiment traversé le pays. Mm. Et je me suis dit, mais comment ils vivent bien, les Français? Après, maintenant que je vis ici, je trouve toujours que vous avez un pays magnifique. Mais maintenant, je sais que les Français se plaignent tout le temps.
Oui.
C'est
un sport national.
Oui, les Français, ils croient qu'ils vivent dans l'enfer. C'est dit par Sylvain Tesson. C'est un pays où les gens pensent qu'ils sont dans l'enfer, mais ils vivent dans le paradis. J'ai découvert un peu le paradis français. Et après, je suis rentré au Financial Times, mon bureau moche à Londres, où les fenêtres ne s'ouvraient pas et où on mangeait mauvais au déjeuner, etc. Et après, en moi, j'ai démissionné. Et j'ai commencé en vie de pigiste. Écrivant sur le foot, j'ai beaucoup voyagé, donc c'était beaucoup mieux. Donc c'est un peu la France qui... C'était la Coupe du Monde 98 qui m'a fait changer de vie. Et en 2001 aussi, j'ai acheté un appart à Paris qui était bon marché par rapport à Londres à l'époque. Mm-hmm. Et j'ai essayé de vivre à Paris et je suis resté les derniers 22 ans. Donc c'est la Coupe du Monde 98 qui a... donner un sens différent à ma vie et qui a fait que je suis ici maintenant.
Tu vois comme le football peut changer la vie d'un homme. La Coupe du Monde 98, fabuleux.
Oui, et le match l'Angleterre-Argentine, c'était à Saint-Étienne. Et après,
j'ai dit que c'était à Lens, c'était à Saint-Étienne.
C'était à Saint-Étienne.
Je me suis trompé.
Et après, j'ai été avec des journalistes allemands, des amis. Et on a pris une voiture et on a voyagé toute la nuit vers Saint-Paul-de-Vence. Mmh. Et avec mes amis allemands, ils avaient loué une maison là-bas. On a passé quelques jours magnifiques à Saint-Paul-de-Vence. Je peux conseiller ce village à tout le monde. Et donc oui, ça aussi, ça faisait partie de l'expérience de match pour moi.
Mmh. Et la finale, tu étais donc au stade aussi pour la victoire de la France.
Oui, très inspirant si on était français. Oui, mais c'était ma première finale d'une Coupe du Monde. Et il y avait la question, est-ce que Ronaldo va jouer ou pas? Il y avait une feuille de match qu'on a eue une heure avant le match, sans son nom.
Oui, je me souviens très bien.
C'était vraiment le grand show, Ronaldo ne joue pas. Et 20 minutes après, il y avait une nouvelle feuille de match avec son nom. Et puis, à la fin, on peut dire qu'il n'a pas joué parce qu'il était là, mais il n'a pas touché le ballon.
Je ne sais pas si tu te souviens, mais on n'était pas loin l'un de l'autre sans se connaître à cette époque-là. Et il nous donne effectivement la feuille de match. Ronaldo n'est pas là. On ne parlait que de ça, évidemment. Les Brésiliens étaient fous. Ils étaient tous à la radio en train de parler de ça en direct. Et nous, à un moment donné... les gens de la FIFA, ils viennent, ils ont insisté pour reprendre le papier. Parce que moi, je voulais le garder. C'était un souvenir, en quelque sorte. Parce que, voilà, ce changement de dernière minute. Mais non, je ne sais pas si tu as pu le garder, mais non, ils ont arraché ça de ma main comme si c'était un secret d'État pour me donner la nouvelle équipe avec Ronaldo, qui, effectivement, a été muselé par cette équipe de France avec Leboeuf qui jouait pour la première fois à la Coupe du Monde pour la finale avec notre ami Marcel Desailly aussi. Et ça, c'est des bons souvenirs, tout ça, évidemment. Pour la France qui gagne la Coupe du Monde pour la première fois en 98 et qui inspire donc Simon Cooper à quitter Londres et son bureau moche de du Financial Times pour venir vivre en France et manger bien à midi. C'est formidable.
C'était un bon choix d'ailleurs.
C'était un bon choix. Et tu es encore en France aujourd'hui, comme quoi t'as bien eu raison. Le dernier des 5 matchs, Simon, qui ont le plus marqué ta vie. Désormais, nous sommes le 11 juillet 2010 à Johannesburg pour la finale de la Coupe du Monde. L'Espagne contre tes Pays-Bas. Alors, tu as choisi ce match-là malgré la défaite en finale.
Oui, c'était un match un peu bizarre dans tous les sens. Mes parents ont grandi à Johannesburg, justement. Et le matin du match, j'ai visité ma grand-mère qui avait 94 ans.
Ah oui.
Et j'étais très proche à ma grand-mère et c'était un peu une rencontre émotionnelle. Bon, c'était une rencontre émotionnelle parce qu'on comprenait que c'était la dernière fois qu'on allait se voir. Et pour moi, c'était un peu difficile de gérer. Donc, à la fin, j'ai dit au revoir et peut-être on se verrait une autre fois. On se verra une autre fois. Et elle a dit non. On ne se verra pas une autre fois.
Oh, wow.
Et elle avait raison. 2 mois après, elle est morte. Et puis, je suis allé au stade.
Ouais. Ouf.
Et mon équipe jouait finale Coupe du Monde, j'étais là. Mais j'avais aussi aidé à préparer un rapport, comment on dit, penalty mm-hmm. report.
sur les tirs au but.
Oui, ouais. Un dossier.
Une étude
sur les tirs au but des Espagnols pour l'équipe de Hollande.
Comment ça se fait que...
Bon, je connais un rechercheur espagnol, un économiste qui s'appelle Ignacio Palacios Huerta. Mm-hmm. Et lui, il est basque, donc il n'est pas supporter de l'équipe espagnole.
Ah oui, il n'est pas espagnol, il est basque, d'accord.
Il est basque. Donc, il avait un dossier énorme sur tous les spécialistes de pénalty du monde. Donc, il avait, par exemple, tous les pénaltys de David Villa ou de Fernando Torres, joueur espagnol de cette époque. Mm-hmm. Comment ils tirent leurs pénaltys? Et j'ai dit aux... j'avais un ami qui a travaillé pour l'équipe de Pays-Bas. Il était un peu chef communication. Et j'ai dit, mais je connais ce mec, est-ce qu'il peut préparer un dossier pour vous pour la finale? Mmh. Et mon ami, il a contacté l'entraîneur des gardiens, et l'entraîneur des gardiens a dit, oui, on veut bien cette étude. Donc, il a préparé cette étude, il a travaillé 48 heures, et j'ai lu l'étude, qu'est-ce que fait Torres, par exemple? Torres, il tire toujours bas, il tire ses penalty bas. Tu ne peux pas dire si ça va à gauche ou à droite, mais ça va être probablement bas.
D'accord.
Il y avait des mecs comme Xavi et Iniesta qui tiraient jamais des penalties, qui prenaient jamais des penalties. Donc, qu'est-ce qu'un joueur, qu'est-ce qu'il va faire, quelqu'un qui prend jamais des penalties, mm-hmm. mais il doit prendre un penalty dans la finale d'une Coupe du Monde.
Oui.
Il va tirer vers son côté naturel, donc pour un droitier comme Iniesta, c'est côté droite de gardien.
Oui.
Oui, on croise.
Mm-hmm,
oui.
On croise. Mm-hmm.
Donc, on ne sait pas, mais c'est probable que si Iniesta tire, il va tirer vers le côté droit du gardien. Mmh. Donc, c'est important de savoir.
Oui.
Donc, Ignacio avait cette étude, je l'ai lue pendant les prolongations du match. Et 5 minutes après la fin, après les pénalties, alors, Iniesta a marqué. Et il n'y avait pas de séance de pénalties et je pouvais écrire mon papier. Mais je n'étais pas triste qu'on avait perdu parce que l'équipe hollandaise a joué d'une manière tellement moche, tellement, comment on dit...
Contre nature.
Contre nature, contre la tradition hollandaise, que moi et aussi plein d'autres Hollandais que je connais, on était contents qu'on avait perdu.
Content d'avoir perdu à ce point-là.
Oui, parce que si on joue comme ça, on ne mérite pas de gagner dans la pensée hollandaise.
Wow.
Et la vraie équipe hollandaise, cette soirée, était l'équipe espagnole qui a vraiment essayé de jouer un peu les jeux hollandais.
Tu es tout prêt donc d'être le héros de cette finale parce que si jamais il y a une séance de tir au but et les Pays-Bas gagnent, tu aurais pu dire, c'est grâce à moi qu'on a gagné la Coupe du Monde.
Oui, et j'avais pendant les prolongations, j'avais tous ces fantaisies là, mais malheureusement pour moi, il y avait Iniesta.
Zut alors. Et pour l'anecdote, ce match reste dans les annales puisque l'arbitre anglais Howard Webb distribue 14 avertissements, dont un carton jaune consécutif à 2 cartons jaunes. Et c'est un record pour une finale de Coupe du Monde. Je ne sais pas si vous, les auditeurs, vous vous souvenez de cette finale en 2010, mais c'était effectivement un match très haché avec beaucoup, beaucoup de fautes.
Oui, honteux. Et surtout de la part hollandaise, les Espagnols, ils ont gardé leur dignité et nous pas.
Dommage. Premier titre de champion du monde pour l'Espagne, qui était déjà champion d'Europe. Simon, on arrive donc à la fin de ces 5 matchs. Juste une petite réflexion, le match le plus récent sur ta liste est vieux de 14 ans. Ça nous dit quoi sur toi? Est-ce que tu es moins enthousiasmé par le football d'aujourd'hui?
Peut-être que quand on devient vieux...
Parle pour toi. Hein.
Pas pour moi. Mm. Le foot devient un peu une répétition. Donc, quand on voit, par exemple, la France contre l'Allemagne, on se souvient des autres France-Allemagne qu'on a déjà vues dans sa vie.
Oui.
Et la première fois, c'est plus important. Donc, la première France-Allemagne, et pour la plupart d'entre nous, c'était 82, ou les gens de notre âge, mm-hmm. Ça restera toujours le plus marquant. Et je pense aussi que les rivalités sont moins importantes, moins féroces maintenant. Il y avait surtout pour les Hollandais, pour les Anglais, pour les Français, cette rivalité avec les Allemands. Et dans les années 80, c'était plus fort que maintenant, pour des raisons évidentes qui ont un rapport avec la guerre.
Mmh. Donc le foot reste quand même une passion pour toi, même si tu n'écris pas seulement sur le foot aujourd'hui, tu continues à regarder beaucoup de matchs.
Oui, c'est souvent une passion et c'est aussi mon travail. Et je pense que quand on devient journaliste, ça crée aussi un peu de distance. Oui, mais je peux toujours, le foot peut me toujours faire rêver. Par exemple, le final de la dernière Coupe du Monde, c'était un match extraordinaire, passionnant. Et même moi, j'étais vraiment, comment on dit ?
Emballé.
Emballé.
Même le vieux cynique que tu es devenu,
ouais, c'est
était
ça.
Emballé par cette finale de Coupe du Monde. Bon, on termine sur ce note positive. Simon, good luck, comme on dit, avec le podcast Heroes and Humans of Football que vous allez, chers auditeurs, aller chercher à partir du 21 mars, c'est ça?
C'est ça, oui.
C'est ça.
Premier épisode sur Kylian Mbappé, donc ne le manquez pas.
Ah, oui.
Et c'est l'opportunité pour les Français d'apprendre un peu d'anglais.
Oui, carrément, d'apprendre des choses sur Kylian Mbappé en anglais. Et puis un mot rapidement sur Impossible City.
Mon livre sur le Paris d'aujourd'hui, le Paris que je connais, le Paris des derniers 20 ans. Ça va être publié en anglais début d'avril.
Formidable. Je pense qu'en français, on ne dit pas good luck, on dit merde. Donc merde, Simon. Et merci d'avoir pris le temps de nous raconter tous ces matchs-là, de partager ces souvenirs, ces moments de vie avec nous. On te souhaite plein d'autres matchs mémorables à venir. Beaucoup de réussite pour ton podcast et pour ton nouveau livre. Merci à vous, chers auditeurs, de nous avoir écoutés. Si le podcast vous plaît, vous savez que vous ne devrez pas hésiter à partager avec vos amis et en parler sur vos réseaux sociaux, sur la plateforme où vous nous écoutez. Si vous pouvez nous donner 5 étoiles pendant que vous y êtes, ce serait encore mieux. Allez, à très vite pour un nouvel épisode 2. Les matchs de ma vie. Bye bye.
Bye.